réplique, la guerre civile aura-t-elle lieu avec David Jaiz et Damien Le Guay. Au lendemain des attentats de Bruxelles, Jacques Julliard écrivait « Nos nations multiculturelles sont devant une alternative simple, sans échappatoire, intégration ou guerre civile. » Un an après, et au lendemain de l'attentat de Manchester, je voudrais demander à mes deux invités, David Jaiz et Damien Le Guay, s'ils partagent la conviction exprimée par Jacques Julliard. Damien Le Guay.
Je m'inscris dans cette filiation-là, je m'inscris dans le constat qui est celui de Jacques Julliard, et nous ne pouvons que constater qu'il y a à la fois effectivement une forme de partition des esprits, des territoires, des cœurs, qu'il y a de façon régulière, depuis plus de 2 ans, des spasmes terroristes qui agitent nos démocraties et la France en particulier, un terrorisme local, un terrorisme de Français contre d'autres Français. Nous constatons qu'il y a effectivement un refus d'intégration par certains, nous constatons qu'il y a un morcellement des territoires, on l'a vu encore dernièrement à Paris. Nous constatons qu'il y a effectivement ce que le ministre de la ville disait il y a...
Dernièrement à Paris, vous parlez du quartier, ce qui s'est passé au quartier de la Chapelle.
Exactement.
Femmes qui ont lancé une pétition pour dénoncer le harcèlement, les insultes dont elles étaient victimes et l'impossibilité pour elles de s'asseoir dans certains cafés.
Oui, c'est de ça que vous parlez. C'est-à-dire qu'on voit effectivement de plus en plus, ici ou là, des territoires qui sont colonisés par des mœurs qui ne sont pas celles de tout le monde et qui donc excluent en particulier les plus faibles, à savoir les femmes qui sont, d'une façon ou d'une autre, obligées de se soumettre à cela. Donc, il me semble que cette question de la guerre civile, intégration ou guerre civile, on peut la poser de deux manières. Soit on considère que c'est un fantasme qui est entretenu pour entretenir l'hystérie du Front National, et donc il ne faut pas en parler, soit, ce que j'essaye de faire dans mon livre...
Votre livre, La guerre civile qui vient est déjà là, et qui est publié aux éditions du CERF.
Voilà. Donc dans ce livre, j'essaye de mettre ça à l'horizon, de considérer qu'il faut prendre au sérieux cette réalité-là. Il faut regarder les désordres culturels que nous constatons, le désarroi de cette France périphérique qui est confrontée à tous ces désordres-là, les dangers religieux qui sont aussi présents un peu partout, et retrouver le sens de cette vertu démocratique qui, me semble-t-il, nous fait défaut, la vieille parésia des Grecs, le franc-parler, la franchise, l'explication franche et honnête pour essayer de régler les problèmes que nous constatons et pour en revenir, effectivement, me semble-t-il, plus à la question de l'intégration qui est la solution, dit Jacques Julliard, et je partage son point de vue, la solution pour éviter la guerre civile qui est effectivement là.
Alors, vous parlez de parésia, le dire vrai, auquel Michel Foucault a consacré certains très beaux cours au Collège de France, mais c'est intéressant de voir que ce dire vrai les responsables politiques ont du mal à l'assumer, notamment l'ancien président de la République, puisque il se réfugie auprès de deux journalistes pour énoncer l'inquiétude qui est la vôtre, Damien Le Guay. On connaît cette confidence à Davet et L'Homme. Un président ne devrait pas dire ça. Eh bien, le ça, en l'occurrence, je le cite, comment on peut faire que la France vive ensemble? Comment on peut redonner un lien entre tous les Français? Comment on peut éviter la partition? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Mais cela, il ne l'a jamais dit publiquement et il n'a jamais entamé une politique pour répondre à cette inquiétude cachée.
Ce qui est très, très étonnant, si vous voulez, c'est cette dualité ou cette façon de reconnaître dans l'intimité d'un dialogue avec des journalistes une réalité qui saute aux yeux de tout le monde et d'être incapable de pouvoir la régler. Et il me semble que la raison de tout cela, c'est une forme, et c'est ce que j'essaie, moi, de prendre au sérieux, de blocage idéologique. Alors, c'est quoi ce blocage idéologique? Il y a une forme d'utopisme sentimental de certains qui pensent que tout va se régler de lui-même. Ceux qui insistent beaucoup sur cette forme de résilience que nous connaissons en France, et heureusement, et qui nous préserve de vrais affrontements. Cette islamophobie imaginaire dénoncée récemment par Pascal Bruckner, qui fait que dès qu'un problème apparaît, on ne peut pas en parler d'une façon ou d'une autre.
Oui, Pascal Bruckner parle de l'islamophobie comme d'un racisme imaginaire.
Exactement.
C'est le titre de son livre.
Voilà, le racisme imaginaire, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement mis en avant, qui est tellement puissant, que tous les sujets qui ont attrait à l'islam, se réfugient derrière cela et empêchent de pouvoir l'aborder. Donc il faut, me semble-t-il, lutter contre cet angélisme multiple, et on pourrait y revenir effectivement si vous voulez.
Alors David Jaïs, pour en revenir à ma question initiale, je citerai un passage de votre propre livre, « La guerre civile n'aura pas lieu » aux éditions du CERF. C'est une déclaration de Patrick Calvar, directeur général de la DGSI, lors d'une audition parlementaire le 10 mai 2016, c'est-à-dire peu de temps après l'attentat de Bruxelles et quelques jours seulement après la tribune que Jacques Julliard publiait dans le Figaro. Je cite « Vous rappeliez que je tenais toujours un langage direct. Eh bien, cette confrontation, je pense qu'elle va avoir lieu encore un ou deux attentats et elle adviendra. Il nous appartient donc d'anticiper et de bloquer tous ces groupes qui voudraient à un moment ou à un autre déclencher des affrontements intercommunautaires. » Quel est votre commentaire, David Jaïs?
Alors oui, c'est effectivement une affirmation un peu crépusculaire. En même temps, elle émane d'un responsable du renseignement, donc qui est très bien informé. Le point de départ de ma réflexion, c'était effectivement de prendre au sérieux le fait que depuis 2012, la France et d'autres pays d'Europe, on l'a vu tragiquement à Manchester il y a quelques jours, est traversée par une vague d'attentats qui sont commis par des djihadistes homegrown, comme on dit en anglais, homegrown djihadistes.
Homegrown, oui, c'est-à-dire nés dans le pays où ils commettent ces attentats.
Absolument, donc je préfère
donc
le terme français d'autochtones.
Comme français ou comme britannique. Puisqu'en effet, le dernier kamikaze, celui de la Manchester Arena, était d'origine libyenne. D'ailleurs, il revenait d'un voyage en Libye, mais il était citoyen britannique.
Bien sûr, et si vous examinez les parcours de ceux qui nous frappent depuis Mohamed Merah, et en réalité le grand préfigurateur de cette série a été Khaled Kelkal dès 1995, ce sont des gens qui sont nés en France, qui ont la nationalité française, qui ont grandi en France, qui sont allés à l'école en France, et qui donc sont parfaitement autochtones, par différence avec la décennie Al-Qaïda, où les terroristes qui frappaient étaient souvent des ressortissants étrangers. Si vous regardez par exemple la distribution des nationalités des kamikazes du 11 septembre, vous avez essentiellement des Saoudiens et des Égyptiens, donc pas des citoyens américains. Et c'est, je crois, pour cela que ces attentats nous font particulièrement mal. Bien sûr, ils mettent en jeu une violence, une barbarie absolument insoupçonnable dans des sociétés démocratiques. Bien sûr, ils frappent des victimes innocentes. Mais ce qui, je crois, inconsciemment nous fait plus mal encore, c'est qu'ils sont commis par des gens qui sont des nationaux, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à notre communauté nationale. Et je crois qu'il est très important de partir de ce point de départ, c'est-à-dire que ces attentats ne sont pas simplement des opérations terroristes qui matérialisent un risque, en l'espèce le risque terroriste, ils sont aussi des actes de guerre civile, même si bien sûr, selon moi, il n'y a pas guerre civile. En revanche, les conditions pour le déclenchement d'affrontements sont réunies et donc il faut tout faire pour éviter le basculement que redoute aussi Patrick Calvar.
Oui, alors, une remarque et une question. À propos des attentats, il y a une sorte de réflexe conditionné qu'ont tous les hommes politiques. À chaque fois qu'il y a un attentat, c'est de le qualifier de lâche. Ce sont des lâches attentats. C'est François Hollande, qui n'était plus président de la République, a quand même publié un communiqué. Après l'attentat de Manchester, il a parlé de lâches attentats. Theresa May a fait la même chose. Je trouve cette expression tout à fait surprenante, puisque l'homme qui a commis cet attentat a eu le courage de mourir pour le faire. Donc, je vois pas comment un attentat sacrificiel peut être lâche. Il est d'autant plus inquiétant, justement, me semble-t-il, qu'il est sacrificiel, et ça rappelle la phrase que Mohamed Merah avait même empruntée à Ben Laden, « Nous aimons plus la mort que vous n'aimez la vie ». Je ne vois pas ce que la lâcheté a à faire dans le cadre d'un fanatisme de ce type. Et là, j'en viens à ma question. Guerre civile, dites-vous l'un et l'autre, même si votre diagnostic et votre pronostic sont très différents, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais là, je m'interroge, parce qu'une guerre civile a lieu dans un pays entre personnes, communautés, qui se réclament malgré tout de ce pays. Alors, vous avez raison, ils sont homegrown, les auteurs des attentats. Ils sont nés là où ils agissent. Mais ils présentent le pays dont ils sont citoyens comme un pays de couffards. C'est ce que disait Black M, le rappeur dont le concert a été annulé à Verdun pour le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, ce qui a créé beaucoup d'émotions et ce qui a conduit la ministre de la culture de l'époque, Audrey Azoulay, a parlé de Roland nauséabond chez ceux qui avaient souhaité cette annulation. J'espère que la nouvelle ministre de la culture aura des mots plus adéquats pour la réalité que nous vivons. Mais pays de couffards, donc, et ils se réclament d'une autre nation, d'une autre communauté, et ne faudrait-il pas, dès lors, plutôt que de guerre civile, parler, comme le faisait déjà Bernard Lewis en 1957, bien avant Huntington, de quelque chose comme un choc des civilisations qui peut déchirer, effectivement, des sociétés comme la société française, fondée sur une laïcité républicaine, et la société anglaise, beaucoup plus multiculturaliste. Damien Le Guay.
Je crois qu'il y a deux choses par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que effectivement, s'il y a conflit, et il y a un conflit entre ceux qui sont prêts à risquer leur propre vie et ceux, ce qui est notre cas, qui aimons la vie par-dessus tout. Aimer la vie par-dessus tout, c'est à la fois magnifique et en même temps, c'est un aveu de faiblesse. Souvenez-vous, effectivement, Hannah Arendt a des réflexions magnifiques là-dessus sur ceux qui veulent préserver plus que tout, la vie, sans avoir des idéaux plus forts que leur propre vie. Souvenez-vous de ce que disait Sénèque, hein, qui méprise sa vie est maître de la tienne. Voilà. Donc ce mépris qui est le leur de la vie, au point de s'exploser, renverse d'une façon ou d'une autre l'idée que nous pouvons avoir de la défense de nos propres valeurs, pour autant que nous les définissions bien. Deuxième remarque par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, il faut, me semble-t-il, avoir un constat le plus exigeant possible sur la situation de partition culturelle, de mœurs, d'esprit, qui est en train de s'installer. Différents rapports, le rapport Montaigne en particulier, montrent bien, pour ne parler que de la France...
Rapport de l'Institut Montaigne, oui.
De l'Institut Montaigne, de septembre dernier, montre bien que un tiers des musulmans qui vivent aujourd'hui en France, ceux qui sont de culture musulmane, considèrent que la loi religieuse est au-dessus pour eux, de la loi de la République. Et tout récemment...
Cette proportion est plus importante chez les jeunes, je crois,
Et elle est dehors de 50%, si je ne m'abuse, chez les jeunes. Et alors, il y a eu un rapport tout récemment qui a été fait, une enquête qui a été faite tout récemment par le CNRS sur les jeunes lycéens. Les jeunes lycéens de 14 à 16 ans. Et qui montre deux choses sur la communauté musulmane. Donc les lycéens qui se disent musulmans. D'une part, ils disaient qu'il y avait 30% de ces jeunes musulmans que l'on pouvait rentrer dans la catégorie des fondamentalistes, ça veut dire pour eux, hein, en quête du CNRS, ça veut dire que pour eux, les vérités de la religion sont au-dessus des vérités de la science et de la culture. Mais le plus grave, c'est que 44% de ces jeunes-là, des jeunes fondamentalistes musulmans, considéraient que l'on pouvait mourir, qu'on pouvait donner sa vie pour la religion. Donc, à un moment donné, il faut, me semble-t-il, essayer de faire le bon constat de cette sécession culturelle, de cette partition des territoires, de cette colonisation, de cette façon d'un certain nombre d'endroits. Je pense en particulier au livre, il y a quelques années, de Géraldine Smith sur effectivement...
Jean-Pierre Timbaud.
Oui, Jean-Pierre Timbaud, voilà, qui dit exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Et il me semble que ce que dit Jacques Julliard est tout à fait judicieux, c'est qu'il y a quelque chose qui est une forme de multiculturalisme rampant et non avoué par ceux-là même qui en font la promotion, et qui s'installe de façon à laisser se développer tout cela. Et donc, l'alternative, je reprends, et me semble-t-il, vous avez eu raison de mettre cet entretien sous le signe de Jacques Julliard, une alternative brutale, comme la nationalité est brutale, comme la culture est brutale, sans échappatoire, intégration ou guerre civile.
Alors, avant que vous ne répondiez, David Jaïs, il se trouve que j'ai apporté le livre de Géraldine Smith, que j'avais d'ailleurs invité à cette émission, rue Jean-Pierre Timbaud. J'étais d'autant plus sensible que, je l'ai dit, mon père avait un atelier de maroquinerie rue Jean-Pierre Timbaud et que j'allais souvent le voir dans cet atelier. Et voici ce qu'elle écrit. En 2006, le vendeur de kebab a abandonné ses jeans pour une tenue islamique qui affiche un visage fermé. Cette année-là, un incident porte un coup fatal à ma volonté de ne rien voir. J'attends Max devant l'école, son fils, pour l'emmener en scooter à son entraînement de tennis à Vincennes. Vêtu d'un survêtement, je vais jouer moi aussi. Je tiens mon casque dans une main et une canette de Coca Light dans l'autre. Je suis en avance, seul face à la porte cochère de l'établissement. Un homme en djellaba blanche descend la rue. Je le vois s'approcher sans vraiment le voir. Arrivé à ma hauteur, il me bouscule volontairement en sifflant. Les femmes traînent pas en pantalon en buvant dans la rue. Dégage, salope. Sa violence m'a totalement prise au dépourvu. Je l'apostrophe bêtement. Non, vous êtes malade. Non, mais vous êtes malade ou quoi, crétin? Il ne se retourne pas, etc. Et elle dit que ça a été le moment où, pour elle, tout a basculé. Bien, je ferme cette parenthèse. David Jaïs, à vous de répondre.
Oui, alors, je crois qu'effectivement, il faut prendre très au sérieux le moment que nous traversons, en particulier depuis 2012. Et je regrette qu'on n'ait pas suffisamment pensé son épaisseur à la fois historique et philosophique, même s'il y a des travaux très intéressants comme le livre de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet qui s'appelle « Prendre date » et qui essaie de donner de la chair et de l'épaisseur historique aux journées de janvier 2015. S'agissant donc de la guerre civile, moi je crois que nous ne sommes pas dans une situation de guerre civile, parce que pour qu'il y ait guerre civile, il faut qu'il y ait des factions au sein d'une société qui sont constituées, qui sont armées, et qu'il y ait des affrontements meurtriers le plus souvent, qui impliquent des frères, des cousins, des amis, et donc la dislocation progressive d'une société. Pour l'heure, ce dont on se rend compte, c'est que les djihadistes qui nous frappent, et qui sont malheureusement nombreux, sont bien seuls face à la société. À chaque fois qu'il y a eu des attentats, la société française a fait la démonstration d'une grande résilience et d'une grande cohésion. Pour combien de temps encore? Si d'autres attentats devaient survenir, se reproduire, peut-être qu'une spirale pourrait s'enclencher. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a un spectre de la guerre civile, concept que j'emprunte à Marx, lorsque dans la l'incipit du manifeste du Parti communiste, il dit un spectre hante l'Europe, celui du communisme. Eh bien moi je crois que le spectre de la guerre civile, c'est précisément ce qui vient rôder, ce qui vient hanter, ce qui revient sous la forme de la revenance dont parle Derrida, à chaque fois qu'une société traverse un moment d'acmé historique. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans ce moment d'acmé historique, c'est-à-dire que nous sommes dans un grand moment de doute sur le sens de notre contrat social et de notre pacte fondamental, et que lorsque la société est menacée de dislocation, il y a des virus opportunistes qui rentrent dans cet organisme qu'est la société et qui cherche précisément à la fracturer, à la fissurer dans ses points de faiblesse. Et c'est ce moment-là que nous traversons.
Oui, mais alors, un mot quand même sur ce terme de résilience, David Jaïs. Parce que moi aussi, je suis très frappé par les réactions des différentes sociétés européennes aux attentats. Mais je suis frappé et aussi de plus en plus gêné par la spontanéité codifiée, si j'ose dire, du chagrin qui s'exprime. Résilience, dites-vous, donc des bougies, des ours en peluche, de la musique, pas de haine, nous sommes unis, et bien entendu, pas d'amalgame. Ce pas d'amalgame est évidemment extrêmement légitime. On ne va pas suspecter le premier arabe que l'on croise parce qu'il y a des attentats de ce type. Mais ce réflexe légitime peut devenir un réflexe conditionné et même un interdit de réfléchir. On ne se demande plus qu'est-ce qui se passe, on ne se demande plus ce qui arrive à notre société, et on s'exprime justement à travers ce chagrin codifié et un peu kitsch, si vous voulez, en disant tout ça n'a rien à voir avec rien. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec l'immigration, et puisque ça n'a rien à voir avec rien, on va rien faire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est montrer qu'on est ensemble. Et on va montrer qu'on est ensemble, on va chanter, et à Manchester, puisqu'ils ont attaqué la musique, on va chanter Oasis. Et donc, Oasis comme forme de résistance. Mais on peut pas tenir comme ça. Il faut éviter, évidemment, de tomber dans le piège tendu par les terroristes, qui est celui de l'affrontement intercommunautaire, mais c'est pas la musique d'Oasis, les bougies et les ours en peluche qui peuvent tenir lieu d'alternative à ce qui nous arrive, Damien Le Guay.
Par rapport à la résilience, je crois qu'il faut effectivement souligner, prenons ça sur le terme de résilience, l'immense capacité qu'a eu la communauté juive en particulier et la communauté chrétienne et catholique aussi, pour essayer toujours, en permanence, face à ce déferlement d'antisémitisme d'un côté, et même face à quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis la Révolution française, c'est-à-dire l'assassinat d'un prêtre au moment même où il était en train de célébrer sa messe. Imaginons ce qui serait passé si jamais un imam avait été tué dans ces conditions-là, dans une mosquée. Donc il faut saluer cette résilience-là et considérer qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la ressource spirituelle des communautés. Donc on est, me semble-t-il, face à quelque chose qui vient puiser dans, disons, du gras spirituel, mais tout cela a...
C'est une expression un peu audacieuse. Mais je vois ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui est dans les communautés et dans les religions, ce qui vient, comme le disait magnifiquement Paul Ricoeur, délier en soi, c'est ça la religion, dit Paul Ricoeur, délier en soi les capacités de bonté. Voilà. Et donc, c'est ce que je me permets de dire comme gras. Deuxième chose, par rapport à ce que disait David G. juste avant, je me méfie toujours, je ne dis pas qu'il l'a dit, mais enfin on n'en est pas loin, de ces arguments boomerang. C'est-à-dire de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on a fait pour tous ces délaissés-là qui viennent d'une façon ou d'une autre se venger contre nous, qu'on a laissé abandonner par la République. Il me semble qu'il ne faut pas, et ça serait toujours, c'est toujours la tendance effectivement que l'on a, de s'auto-culpabiliser sur la dérive de ses propres enfants, les enfants de la République, qui auraient été, d'une façon ou d'une autre, délaissés. Et troisième chose, David Jays a parlé de Patrick Bouchon. Il me semble que, je suis là en désaccord complet avec lui, il ne me semble pas que l'entreprise faite par Patrick Bouchon soit non seulement une réponse judicieuse, mais cette capacité à pouvoir recréer un récit commun en le réinvestissant de tout ce qui serait positif, à savoir ce qui vient de l'extérieur, au détriment de ce qui nous constitue ou cet héritage commun que nous devons d'une façon ou d'une autre assumer et faire partager aux autres, soit la bonne réponse face à la situation qui est la nôtre.
Alors il est vrai que l'histoire mondiale de la France est une réponse explicite à ce que, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Patrick Bouchon appelle la déplorable régression identitaire qui poisse notre contemporanéité, que dans la préface, le mot identitaire, le mot identité sont infiniment répétés. Il s'agit de montrer qu'il n'y a pas d'identité française. Exactement. et comme si, effectivement, c'est en se désidentifiant elle-même que la France pourrait le mieux résoudre les problèmes auxquels elle est exposée et se réconcilier avec ceux qui ne l'aiment pas. Et en effet, on peut avoir des doutes et sur la solution ainsi proposer, et aussi sur l'exactitude historique d'un récit fondé sur de telles prémices.
Alors je voudrais dire deux choses. Quand vous avez parlé de la pauvreté, voire même de la paucité des ressources que nous avons pour réagir à ces attentats, je crois que c'est bien normal quand nous sommes confrontés à un événement qui est une catastrophe, c'est-à-dire qui introduit une rupture radicale dans l'intelligibilité du monde, les réactions spontanées sont toujours faites avec des bouts de chandelle, si j'ose dire, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'on réagit avec les moyens qu'on a sous la main. Ce qui compte, c'est plutôt l'énergie sociale qui s'y manifeste. On l'a vu après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, le rassemblement du 11 janvier, le mémorial improvisé qui est devenu la place de la République, manifester cette énergie sociale. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à convertir une énergie sociale brute, un peu orpheline de sens, en une véritable politisation du chagrin et de la pitié. Et effectivement, et c'est le point de départ de mon livre, j'explique que les manifestations du 11 janvier, si elles ont témoigné un grand désir de repolitisation et de refaire une cohésion nationale, malheureusement, elles ont été orphelines d'initiatives civiques et d'initiatives politiques.
Oui, mais alors, David Zahidza, j'ai une question à vous poser, parce que le 11 janvier, c'était Place de la République, et après le 11 janvier, il y a eu récemment Place de la République, le mouvement Nuit Debout, dont l'hostilité au 11 janvier était explicite, puisque le 11 janvier, c'était un moment en effet de communion affective d'un peuple réuni autour de slogans silencieux et simples, « Je suis Charlie, je suis la police, je suis la République ». Et que s'est-il passé à Nuit Debout? Eh bien non, c'était « Nous n'avons pas d'ennemis, s'il y a un ennemi, c'est l'ennemi intérieur ». C'est celui qui fait la loi El Khomri, la seule guerre admissible, c'est la guerre de classe. Et à ce moment-là, l'un des grands, grands mots d'ordre, c'était « tout le monde déteste la police » et la violence s'est déclenchée à la fois contre les policiers, mais aussi contre les vitres de l'hôpital Necker. Donc il y a eu c'est comme si, précisément, on voulait laver la tache du 11 janvier pour revenir à une forme de guerre civile antérieure que l'on connaît mieux, c'est-à-dire la lutte de classe. Trotsky disant quand même dans leur morale et la nôtre que la guerre civile est la forme culminante de la lutte de classe qui abolit tous les liens moraux entre classes ennemies. Donc c'était d'une guerre civile ou d'une guerre de civilisation possible revenir à la guerre civile que l'on connaît si bien en France. Alors comment vous-même avez-vous réagi à cette réaction en quelque sorte au 11 janvier, David Jay?
J'ai plutôt le sentiment effectivement que les manifestations du 11 janvier n'ont pas réussi à déboucher sur une initiative politique et sur une inscription dans l'ordre symbolique durable. Et on l'a vu entre Nuit Debout et le 11 janvier 2015, vous avez les attentats du 13 novembre. Rappelez-vous les rues de Paris le 14 novembre. Au matin, elles étaient absolument désertes. Je dis dans le livre, seul soufflait le vent glacial de la mort dans ces rues. Ce qui signifie que précisément, une fois que nous avons manifesté une énergie sociale spontanée, nous ne pouvons pas le répéter à l'envi. Et nous ne pouvons pas dire « je suis Paris, je suis Beyrouth, je suis Bagdad ». C'est une façon tautologique de s'identifier à des endroits qui sont frappés les uns après les autres par des attentats. Mais c'est une façon assez pauvre, finalement, de réagir à
dit quand même, au lendemain de 13 ans, nous sommes en terrasse. Slogan que Alexandra Lignier-Lavastine, dans un livre également publié aux éditions du Cerf, Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir, trouve assez pauvre. Mais en même temps, ça voulait dire, nous avons un mode de vie fondé sur la mixité, et ce mode de vie n'est pas négociable. Donc il s'est quand même dit quelque chose.
Mais vous conviendrez que c'est assez rustique comme...
Comment ?
C'est assez rustique comme mobilisation de ressources spirituelles face à ce que veulent nous dire ceux qui nous frappent. Je voudrais dire à Damien Le Guay quand même, quand il me reproche de chercher ou de trouver des raisons à ces délaissés qui viendraient se venger de la République, que ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, je pense qu'il faut au contraire prendre très au sérieux la dynamique à la fois politique et spirituelle du djihad. Et lorsque nous disons que ce sont des délaissés qui viennent se venger des atrocités ou des actes qui sont commis par l'Occident, c'est pratiquer une forme d'impérialisme de la culpabilité, puisqu'en réalité, nous serions les seuls à l'initiative, nous, l'Occident, et les djihadistes, au fond, ne seraient qu'en réaction ou en réponse à ce que nous faisons, qui est absolument détestable. Et les tiers-mondistes qui pratiquent cet impérialisme de la culpabilité ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la continuité avec les discours impérialistes les plus classiques.
En même temps, vous dites dans votre livre, David Jaiz, vous parlez de la misère économique et sociale, de la discrimination et de la relégation, qui sont le plus souvent le lot initial de ces djihadistes, mais ce n'était pas le lot notamment de l'égorgeur du père Jacques Hamel, dont la mère était enseignante, la sœur chirurgienne, le frère informaticien, ni non plus d'ailleurs de celui qui a commis l'attentat de Manchester, puisque c'était un étudiant très bien intégré.
Mais la misère produit toujours de la violence. La misère peut produire du gangstérisme, du banditisme. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la différence de nature entre le djihadisme qui sévit maintenant dans nos sociétés et le gangstérisme ou le banditisme. Et je crois que cette différence tient au supplément d'âme spirituelle que donne à un groupe d'individus déclassés et déterminés une parole qui consiste à chercher à rétablir de gré ou de force l'unité du politique et du religieux et à établir, en tout cas dans les sociétés arabo-musulmanes, le califat. Et je crois que si on veut comprendre quelle est la dynamique profonde, la dynamique insurrectionnelle du djihad, il faut être très conscient que c'est toujours la conjonction entre ce que le philosophe Ibn Khaldoun appelait déjà au XIVe siècle une asabiya, c'est-à-dire un groupe d'individus déterminés qui fraternisent et qui sont souvent aux marges des empires, donc qui sont les bédouins au XIVe siècle, mais qui peuvent aujourd'hui vivre dans les marges économiques et sociales de nos grandes métropoles, et un appel prosélyte à la conversion religieuse, qu'il appelle Dawa, et qui est en quelque sorte le ciment de ces individus. C'est-à-dire que ce message religieux donne à des individus qui sinon seraient mus par leurs passions et leurs désirs, partant un peu dans tous les sens, une unité, une organicité. En d'autres termes, comme le dit le psychanalyste Fethi Ben Slama, l'asabiya mue par un message religieux, c'est une bande, en quelque sorte. Donc vous voyez, on a le retour de la tribu au cœur de nos communautés politiques contractuels, au cœur de nos communautés politiques qui sont placées sous le sceau de la complexité. Et ce qu'il faut penser justement, c'est quelles ressources spirituelles on se donne pour essayer de contrer cette dynamique ascensionnelle qui touche aussi bien les sociétés arabo-musulmanes que les sociétés occidentales.
Damien Le Guay.
Moi, il me semble que nous sommes, et effectivement Jacques Julliard nous le dit comme cela, nous sommes face à une forme d'alternative qui n'est pas dite comme cela, mais qui se présente, me semble-t-il, de cette manière-là. Soit on continue, c'est ce que veut faire Boucheron et d'autres, soit on continue dans cette désessentialisation, dans cette désubstantialisation, dans ce culte de l'abstraction des individus, dans cette dénationalisation, voilà, considérant effectivement que plus on va s'effacer et plus les raisons pour lesquelles certains s'opposent à nous va diminuer. Donc il faut au contraire aller de plus en plus vers une société multinationale, multiculturelle, pardon. Et cette société multiculturelle, comme le dit Mathieu Bock-Côté, elle a comme philosophie l'idée d'inverser le devoir d'intégration. C'est à la nation qui est historiquement présente d'intégrer ceux qui viennent d'ailleurs et non pas l'inverse. Donc ça, c'est la première solution, et me semble-t-il, c'est ce que le rapport Thuot met en avant, c'est ce que...
Oui, le rapport Thuot sur la société inclusive.
Inclusive, absolument, fait, oui. qui part du principe, qui dénonce une France chevrotante et confite dans ses traditions imaginaires. Et on peut après... Bon. Et deuxième chose, c'est d'essayer de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas, d'une manière ou d'une autre, en revenir, disons, à un ADN républicain, qui est celui, effectivement, de la Troisième République, qui est celui de Lavis, qui est celui de Renan, qui est celui de tous ceux qui ont fondé... Et il faut se souvenir, parce qu'on parle de guerre civile, mais il faut se souvenir... De quelle manière est-ce que les catholiques ont été traités entre 1880 et 1914 pour les faire rentrer de gré et de force dans ce modèle républicain. Et donc, il me semble que là, il faut faire quelque chose pour revenir à cela. Et on cite toujours le discours de Renan à la Sorbonne en mars 1882. On rappelle toujours ce plébiscite de tous les jours, cette nation comme cause spirituelle. Mais on oublie quelque chose qui est essentiel et que, me semble-t-il, Patrick Boucheron oublie. C'est ce qu'il dit juste avant. C'est-à-dire, il faut oublier ses propres querelles. Je le cite, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, mais aussi qu'ils aient tous oublié bien des choses. Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy. Et donc il me semble que plutôt que de cultiver ce vers quoi va cette nouvelle récit national qui devrait intégrer à la fois tous les traumatismes, à la fois toutes les difficultés qui sont les nôtres et à la fois toutes les altérités extérieures qui sont venues et qui viennent d'ailleurs, il faut faire ce deuil de nos propres conflictualités, de nos propres mémoires douloureuses au profit, ce que dit Renan, au profit de cette série de faits convergents dans le même sens qui est la nation.
David Chase.
Alors c'est très intéressant que vous parliez de l'oubli de la Saint-Barthélemy parce que je crois que c'est le cœur de notre sujet. C'est-à-dire que la France est un pays qui a un rapport particulier avec la guerre civile. C'est un pays qui est en tension permanente entre la volonté centralisatrice d'un État, d'une langue, d'une éducation homogène, et la Troisième République a vraiment consolidé ça, et en même temps des forces de dispersion qui sont extrêmement fortes. Et si on examine différents moments de l'histoire de France, on se rend compte effectivement que le spectre de la guerre civile parfois prend chair. C'est le cas des guerres de religion au XVIe siècle, qui culminent avec la Saint-Barthélemy, c'est le cas des chouanneries et des guerres vendéennes au moment de la Révolution française, c'est le cas des insurrections sociale du 19e siècle, c'est le cas à nouveau avec le régime de Vichy. Face au souvenir ou face à la possibilité de la guerre civile, je crois qu'il y a deux grandes attitudes politiques possibles. D'une part, le refoulement. C'est-à-dire ce que vous dites, nous devons oublier, nous devons faire l'impasse.
Ce que Renan dit.
Ce que Renan dit.
Ce que Lavisse dit.
Nous devons faire l'impasse.
Ce que tous les fondateurs de la Troisième République disent.
Absolument. Nous devons faire l'impasse sur les grandes épreuves du passé. Au fond, c'est vieux comme le monde, puisque déjà les Athéniens, en 403 avant Jésus-Christ, pour se reconstruire politiquement, décident de faire prêter chaque citoyen un serment d'oubli des horreurs de la guerre civile. Et puis, d'un autre côté, il y a affronter le passé avec lucidité et l'enseigner de manière dépassionnée et objective. Et je crois que quand on refoule, ça peut être plus efficace pour les 10, les 20, les 30 années qui suivent. Mais en revanche, on s'expose à un retour du refoulé, comme en psychanalyse, qui est absolument terrible.
Mais là, justement, quand même, j'ai une interpellation à vous faire, David Jaïs, parce que, précisément, vous dites dans votre livre qu'il s'agit de solder le passif colonial. Et lisant cette phrase, j'ai pensé à une confrontation très intéressante lors de la campagne présidentielle. C'était sur France 2 et c'était Emmanuel Macron, alors candidat, face à Barbara Lefebvre, une professeure d'histoire qui a participé aux deux grands travaux dirigés par Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République et Une France soumise. Et elle lui a dit qu'il avait eu tort de parler de crimes contre l'humanité pour qualifier la colonisation, de le faire en Algérie, face à un gouvernement qui dénonce le comportement génocidaire de la France pour faire oublier ses propres turpitudes et dont le président vient faire soigner la moindre de ses maladies dans un hôpital parisien. Et elle lui a dit aussi, vous parlez de refoulé colonial, et c'est absolument scandaleux. Nous enseignons la colonisation, nous le faisons de manière critique, et en parlant de refoulé colonial, vous envoyez un signe au quartier, à des gens, en effet, qui sont installés dans leur grief, et qui veulent pouvoir se donner des raisons de détester le pays dans lequel ils vivent. Et j'ajoute que si l'on allait jusqu'au bout de l'enseignement de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, alors on parlerait sans doute des tortures, comme on le fait, commises par l'armée française, des horreurs de la colonisation, mais aussi de la violence du FLN vis-à-vis des indépendantistes modérés, vis-à-vis des Européens, et on devrait parler notamment du massacre d'Oran, deux jours après le référendum d'autodétermination, 3000 Européens massacrés dans la ville. Et l'armée française, puisque l'autodétermination avait eu lieu, n'a rien fait. Et c'est ce qui a conduit à l'exode massif de tous les Pieds-Noirs. Donc, il n'est pas sûr qu'un regard lucide, clairvoyant et impartial sur ces événements donne satisfaction à des gens qui pensent qu'ils vivent dans un pays qui continue à leur devoir quelque chose.
Moi, je crois que l'enseignement de la colonisation et de la décolonisation à l'école existe, mais il est très insuffisant. Je pense qu'il faudrait lui donner plus d'épaisseur et que chaque écolier sache quelle a été l'histoire coloniale de la France, parce qu'au fond, c'est une histoire de France aussi. Et quand Alexis Génie et Benjamin Stora parlent d'agrandir l'histoire de France, il ne s'agit pas de renoncer au récit historique qui fonde la cohésion nationale et qui permet à chaque citoyen d'avoir une conscience éclairée de l'histoire de son pays. Il s'agit d'en proposer une version agrandie, c'est-à-dire qui incorpore une dimension mondiale et qui ne soit pas repliée sur des images d'Épinal, étriquées, hexagonales. Il ne s'agit pas de renoncer au grand récit. Moi, je pense qu'on est revenu de l'ère du soupçon de cette période où on disait qu'on ne peut plus raconter de récits et qui a fait effectivement beaucoup de mal à la conscience nationale. Sur l'Algérie, je crois que s'il y a aujourd'hui des mémoires qui sont aussi douloureuses, s'il y a aujourd'hui des cloisonnements et des ghettos mentaux et une forme de guerre civile culturelle s'agissant du souvenir de la guerre d'Algérie, c'est précisément parce que les différents groupes sociaux qui ont participé à la colonisation et à la décolonisation de l'Algérie sont orphelins d'une histoire objective et dépassionnée. Il y a d'un côté les Pieds-Noirs qui vivent avec leur mémoire et leurs blessures. Il y a les immigrés, il y a les Juifs séfarades, il y a les appelés du contingent, il y a toutes ces communautés qui ont coexister en Algérie et qui aujourd'hui ne peuvent pas se retrouver autour d'un socle minimal. Moi, je crois qu'on gagne toujours à enseigner et à faire l'histoire des épreuves que notre pays traverse beaucoup plus qu'à les refouler.
Si je puis me permettre.
Damien Le Guay.
Non, je crois qu'il y a une erreur sur le diagnostic. Je comprends ce que David Jay dit. Mais est-ce que l'on peut continuer, comme on le fait depuis 30 ans, à cultiver les mémoires blessées des uns et des autres, ou est-ce qu'il faut effectivement faire le deuil de ces mémoires-là pour arriver à ce récit national commun tel que voulu par les uns et par les autres.
Mais l'histoire est donc à faire le deuil.
Non. L'histoire n'est pas, contrairement à ce que dit M. Boucheron, n'est pas une accumulation de faits détenus par les historiens. Le récit national est une chose politique, voulue par le politique. C'est ce qu'ont montré les historiens de la Troisième République, qui est de nature à exalter ce qui est en commun plutôt que ce qui nous divise. S'il faut...
Exalter quand même sans faire l'impasse sur les périodes sombres.
Absolument.
Un héritage de gloire. Et de regrets.
Exactement. De gloire et de regrets. Oui. Absolument. Ce legs indivis, dont parle Renan. Première chose. Deuxièmement, sur l'Algérie, moi je vais me référer quand même à ce que dit magnifiquement Camus en 58 dans sa chronique algérienne. Bon. Il préface la chronique algérienne, enfin ses chroniques algériennes, et il dit la chose suivante. Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Ça, c'est M. Boucheron et les autres. Très bien. Mais il continue. Et il dit « Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même. » Je crois que le défi, il est dans l'estime de soi. Et quand on parlait effectivement des musulmans de France, il faut savoir que 37% des musulmans de France pensent qu'ils sont victimes d'un complot contre l'islam. Et que donc, ils sont eux-mêmes victimes de cela. Et tous ceux, me semble-t-il, c'est ce que je dénonce dans mon livre, tous ceux qui alimentent cette idée suivant laquelle la France serait structurellement raciste, qu'il y aurait une intention islamophobe qui serait présente, que par exemple, quand Emmanuel Todd, après les événements de janvier, Je suis Charlie, dit que l'islam est encore la religion du pauvre, que l'antisémitisme, quand il se manifeste, n'est qu'un effet de jeu de billard d'une islamophobie qui est patente. Quand François Burga dit que la France est une machine à radicaliser et donc qu'elle produit ces terroristes parce qu'elle ne fait pas le partage du symbolique, quand Vincent Peillon et Louis Plenel dit que l'islamophobie en France est de même nature que l'antisémitisme des années 30, je me dis que tous ces gens-là, excusez-moi, je vais le dire calmement, mais ils sont fous. C'est-à-dire, ils ne font qu'alimenter le ressentiment de certains contre la France, considérant que effectivement la France complote contre eux.
Alors, ce que disait Emmanuel Todd à propos du 11 janvier, dont vous parliez tout à l'heure, David Jaïs, dans son livre Qui est Charlie, des millions de Français se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles. Il a parlé de flash totalitaire et il a dit que les dessinateurs de Charlie auraient dû être poursuivis et condamnés pour provocation à la haine raciale.
Emmanuel Todd est un homme brillant que je respecte, mais ce livre n'était sans doute pas son meilleur, ni celui où il a été le mieux inspiré. Pour en revenir sur la succession de refoulements dans l'histoire de France, qu'a-t-on gagné à refouler l'histoire du régime de Vichy et l'histoire de la montée de l'antisémitisme en France et des actes qui ont été commis? Rien. Moi, je crois que l'ombre ne confisque pas la lumière. Il faut être capable de faire le départ entre ce que notre histoire a effectivement de lumineux, l'appel du 18 juin 40 en est un bon exemple, et puis ce qu'elle a de plus obscur. Et je crois que si nous arrivons lucidement à faire face tous ensemble à ces pages d'ombre et à ces pages de lumière de notre histoire, nous serons à même de redonner de la cohésion. Et ce qui précisément crispe les communautés, c'est le fait que nous n'avons pas la capacité de nous retrouver autour d'un socle spirituel commun. Et donc c'est pour ça qu'il faut réinventer un récit commun, mais ce récit doit être pluriel et il doit tenir compte
de... Récit pluriel, dites-vous, récit commun. Mais alors, que ressentez-vous à la lecture de ces phrases que je vais vous citer de Daniel Siboni? Très peu en France savent que la guerre d'Algérie s'est faite sous le signe du djihad. La doxa la range sous l'emblème de révolution ou de guerre de libération, ce qu'elle fut aussi. Mais les combattants algériens s'appelaient Moudjahidin et le journal du FLN, El Moudjahid, tenant du djihad. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire dans un État arabe qui ne s'appuie massivement sur les foules religieuses.
Je sais que pour beaucoup de tiers-mondistes et de communistes, la grammaire des luttes de libération nationale des peuples colonisés aurait dû se faire dans la langue de Marx. Il se trouve que ces peuples, ils ont aussi leurs références. Ils ont leurs références religieuses, ils ont leurs références culturelles, et que le djihad, effectivement, en tant qu'il est un mouvement d'insurrection à la fois politique et religieux, c'est une grammaire qui peut servir à ces luttes.
Refaire le récit, enfin je reprends vos termes, réinventer un récit, etc. Moi, je pense que ça fait 30 ans qu'on mazoute complètement des pages de l'histoire de France de manière à remazouter complètement la France elle-même. Je pense qu'il faut revenir à deux choses simples. Est-ce qu'on est capable, oui, regarder lucidement les choses, évidemment. Après, faire le deuil, oui. C'est-à-dire le deuil historique. Deux citations que je voudrais apporter à une discussion. Jacques Julliard, 2005. « Nous ne nous aimons plus, comme si l'âme collective de la France, ce mythe nécessaire, était en train de se dissoudre. » Et deuxième témoignage, je me souviens, Pierre Nora, il y a 50 ans, le jeune Pierre Nora, à Oran, si je ne m'abuse, découvre la France à laquelle il appartient en lisant les manuels de Lavis. Et les manuels de Lavis commencent comme cela. « Enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. » Est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de dire cela?
Alors, est-ce qu'on est capable de dire cela? Mais est-ce qu'il suffit de dire cela? Ce sera mon autre question. C'est-à-dire, peut-on éviter le pire qui serait soit la guerre civile, soit la sécession, en se soumettant à la marche du monde? Alors, je vais simplement vous lire maintenant un propos provocateur, pour savoir votre réaction, de Bernard Lewis, cité dans le livre de Pierre Lelouch, « Une guerre sans fin ». Un journaliste allemand lui demande si l'Europe deviendra une superpuissance à la fin du XXIe siècle. Il répond avec une ironie macabre, « Une superpuissance, l'Europe fera partie d'un Occident arabe, voire du Maghreb. » Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette ironie macabre de Bernard Lewis?
Moi, je réponds David une chose Lewis. Simple, c'est qu'effectivement, une partie du ressourcement spirituel aux difficultés que nous traversons, mais c'est un travail de très longue haleine, réside dans la Méditerranée. parce que nous avons une communauté de destin. Nous avons un même appétit pour la rationalité. Nous avons le berceau de l'éclosion des trois monothéismes. Nous avons des échanges commerciaux, des flux humains, des diasporas. Bref, si nous voulons à nouveau que ces cultures qui aujourd'hui s'affrontent ou qui sont portées à s'affronter se parlent à nouveau et tissent des liens de coopération davantage que d'affrontement ou de compétition, nous devons, je le dirais un peu ironiquement, déplacer le centre de gravité de Francfort à Marseille. C'est-à-dire que nous devons aussi penser l'unité politique de la Méditerranée.
Et que faites-vous de l'échec des printemps arabes, quand même, de ce qui s'est passé en Égypte, de ce qui se passe aujourd'hui en Libye? On ne peut pas, on peut d'autant moins oublier la Libye que l'auteur de l'attentat de Manchester est libyen. Alors,
je n'occulte pas cela. Les sociétés arabes ont traversé effectivement des moments de bouleversement politique, mais comme dans toute révolution et dans toute évolution politique, évidemment, c'est des processus qui sont extrêmement longs et on ne peut pas en un ou deux ans passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de la tyrannie à la démocratie libérale la plus pure et parfaite. Donc effectivement, il y a une longue phase de transition qui s'annonce, mais je crois que nous gagnerions à les aider dans cette transition et à essayer d'établir des liens de coopération, comme d'ailleurs Henri Guénot, il faut le créditer de ça, en avait eu l'intuition lorsqu'il avait suggéré au président Sarkozy de créer l'Union pour la Méditerranée.
Oui, il me semble qu'on peut aider effectivement les uns et les autres et décentrer le problème au niveau de la Méditerranée, je suis tout à fait d'accord. Il faut déjà commencer à s'aider soi-même. Il faut déjà essayer d'aider la nation qui est douloureuse et qui est la nôtre et qui est celle qui est confrontée à cette sécession culturelle, spirituelle, religieuse que nous constatons. Comment le faire? Sinon aussi en dénonçant tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, appellent à cette hostilité à l'égard de ce principe national, qui entretiennent l'idée que effectivement les musulmans sont victimes d'un racisme structurel, qu'ils doivent vivre séparés, hein, c'est exactement ça qui est dit, ce racisme structurel qui est dénoncé par les uns et par les autres, et faire en sorte que effectivement ils puissent devenir pleinement citoyens de cœur et d'esprit français.
Très bien, merci beaucoup. David Jaïz et Damien Le Guay. Je rappelle le titre de vos livres. David Jaïz, La guerre civile n'aura pas lieu, aux éditions du Cerf. Damien Le Guay, La guerre civile qui vient est déjà là. Comme ça, l'auditeur se fera une idée lisant ces deux ouvrages après avoir entendu l'émission. Et les deux ouvrages sont publiés aux éditions du Cerf. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les illusions perdues. Mes invités seront Cécile Gilbert et Marc Lambron. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et d'Annie Journeau. À la technique aujourd'hui, Jean-Michel Bernaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.